Médien.
Médien. Podcast.
Médien.
C'est toujours avec un énorme plaisir que je vous retrouve sur Médien pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique.
Médien. Amna, l'Afrique en culture.
Et dans quelques instants, dans l'Afrique en culture, nous aurons l'immense plaisir de recevoir le réalisateur marocain Raouf Sebahi qui nous parlera de son nouveau film « L'Oasis des eaux gelées », un film très intime qui tient particulièrement à cœur au réalisateur et qui est en salle en ce moment même. Sinon, nous parlerons également littérature avec notre deuxième invité du jour, Marc-Alexandre Aubambé, ou plutôt Capitaine Alexandre, et il sera avec nous pour nous parler de poésie, de littérature, mais également de slam. Et puis nous parlerons également cinéma avec le documentaire de Boubacar Sangaré, Hors de vie, un documentaire poignant dans lequel le réalisateur burkinabé suit durant 3 ans Rasmané, un jeune orpailleur de 16 ans qui cherche l'or à tout prix. Et comme promis, place tout de suite à notre premier invité du jour. Il s'appelle Raouf Sebahi, un des visages phares du cinéma marocain, mais également africain. Après Le Pistolet ou encore Clair Obscur, il nous propose une nouvelle œuvre. Une œuvre intimiste qui nous parle d'amour, d'espoir. Raouf Sebahi qui nous propose son tout dernier né, L'Oasis des eaux gelées, un film intime qui vient des tripes et qui tient particulièrement à cœur au réalisateur qui nous en parle tout de suite.
En fait, ce film pour moi est une nécessité dans le sens où je raconte une partie de mon vécu, bien sûr en rajoutant des ingrédients dramaturgiques pour le spectacle, mais à la base, c'était une période où Khaoula, mon épouse et moi, avons donné naissance à notre premier et seul fils, Yazid. Et à sa naissance, j'ai souffert de ce qu'on appelle le syndrome du papa jaloux. J'ai senti que ce nouveau-né, notre fils, est venu me prendre ma place. Et c'est à partir de cette situation que j'ai vécue pendant quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, que j'ai décidé de partager ça, une sorte de catharsis. De toute façon, moi, la plupart de mes projets, surtout cinématographiques, sont des expériences personnelles d'abord, et puis après, on passe au développement. Et donc voilà, la genèse, c'était justement la naissance de mon fils qui m'a poussé à vivre une situation à laquelle je ne me suis jamais attendu et qui m'a poussé par la suite à la raconter en images et en son à travers l'Oasis des eaux gelées.
Et est-ce que c'est très intéressant ce que tu dis, parce que voilà, il y en a qui mettent vraiment une césure entre l'artiste et l'œuvre, et il y en a pour qui l'artiste est indissociable de son œuvre, de son travail. Et est-ce que voilà, après avoir écrit ce film, après l'avoir filmé, après l'avoir monté, est-ce que le travail de catharsis est véritablement fait pour toi?
Alors, il y a eu des étapes. En fait, je l'ai écrit. Je l'ai mis de côté parce que j'ai eu peur d'en parler. C'était à moitié courageux, mais pas au point de décider de le partager. Mais ça m'a pris quelques années. Et à un moment donné où la réconciliation s'est faite totalement, surtout en voyant notre fils grandir, en étant fier de lui, en étant déçu de quelques attitudes d'adolescent. Et à ce moment-là, je voulais justement, avant qu'il ne passe à l'âge adulte, mais au moment où il est devenu conscient, où il peut comprendre des choses raconté dans ce film, de le faire. Donc la catharsis, elle s'est faite même avant de le tourner, en fait. Mais c'est devenu par la suite une nécessité de transformer ce papier que j'ai écrit en image. Donc oui, je pense que pour répondre à ta question, Amna, la catharsis s'est faite à travers ce film. Et je suis justement, pour revenir aussi à ton analyse, effectivement, moi, je fais partie de la première catégorie. Celle qui n'arrive pas à dissocier le personnel du professionnel dans le cinéma. Pas dans la télé, hein, parce que dans la télé, je n'écris jamais ce que je réalise. Mais dans le cinéma, je pense que c'est un espace personnel, mais ouvert à tout le monde.
Exactement, un partage de sensibilité qui, en fin de compte, nous est commun à tous les êtres humains. Et ce que je voudrais savoir également, Raouf, c'est, voilà, pour ce film, c'est presque, entre guillemets, un huis clos. Donc, ça a été construit, les décors, comment ça s'est passé concrètement et pourquoi le choix de ce huis clos?
Et je ne pouvais pas, justement, comme on fait, de par nos moyens et nos difficultés financières, comme nous faisons tous, mes collègues et moi, c'est le fait de s'adapter avec les décors qu'on trouve et qu'on loue. Non, je ne pouvais pas sur ce film. Je voulais raconter cette histoire telle que je l'ai imaginée dans ces espaces. Et c'est vrai que c'est très difficile au niveau financier, au niveau production. Maintenant, autrement, ça aurait été raté à 100%. Donc, huis clos s'impose par justement parce qu'ils vivent ensemble, mais ils sont seuls. C'est en fait la notion de la solitude qui te pousse à raconter des situations ou à écrire en images et en son des situations où tu te retrouves en train de les raconter dans des espaces restreints, fermés. Et voilà, parce que ce genre de films personnels n'ont jamais subi ce système machiavélique de schéma de fabrication où tu te dis En fait, les choses évoluent avec toi. Enfin, l'histoire, en l'écrivant, elle évolue. Tu ne sais pas où tu arrives. Je pense que le huis clos s'est imposé par la situation des comédiens, par leur état d'âme, et je pense que je n'avais pas tort à trancher sur ce choix.
Et d'ailleurs, il est en salle en ce moment, là, ouf. Exactement.
Oui, il est en salle sur Rabat, sur Casa, sur Jdida, bientôt Tanger. Je n'ai pas envie de citer les salles, le public le saura seul. Donc, bientôt Tanger et Fès. Je suis très content parce que c'est quand même une belle sortie avec 13 ou 12 écrans qui le projettent en même temps. Nous passerons par la suite aux salles qui viennent d'être créées par le ministère de la Culture, les 50 salles déjà prêtes dans les petits villages. Ça aussi, ça me rend heureux. Donc, allez-y le voir. Ce n'est pas un film commercial de divertissement, c'est un film différent mais qui mérite d'être vu. Le public marocain est suffisamment intelligent pour justement pouvoir voir et digérer plusieurs genres cinématographiques.
Et je vous encourage vivement à aller le voir et à découvrir ce très bel univers et ce film qui vient des tripes signé Raouf Sebahi, donc l'Oasis des eaux. Je les remercie Raouf d'avoir été avec nous.
C'est moi, merci.
Et on continue d'ailleurs à parler cinéma dans l'Afrique en culture après ce tête-à-tête avec le réalisateur Raouf Sebahi qui nous parlait de son film L'Oasis des eaux gelées actuellement en salle un peu partout au Maroc. Nous parlons de Hors de vie de Boubacar Sangaré, un documentaire qui retrace la vie d'un jeune orpailleur au Burkina face au Rasmani, 16 ans, qui espère, je cite, atteindre l'or sur le site d'orpaillage de Bantara au Burkina Faso. Le cinéaste Boubacar Sangaré l'a suivi dans cette quête qu'il partage avec des milliers d'autres enfants burkinabés. Hors de vie, en salle depuis le 5 juin, a été filmé durant 3 années par le cinéaste. Son premier long-métrage documentaire pour le cinéma est donc un portrait de Rasmani dont on découvre pour la première fois le visage à l'âge de 16 ans. Hors de vie, un film de Boubacar Sangaré qui documente donc la vie d'un jeune orpailleur au Burkina Faso, Rasmani, 16 ans, qui espère atteindre l'or avec cette permanente éventualité d'un accident mortel dans les galeries. Mais c'est le prix à payer pour Rasmani qui ne vit plus avec ses parents, qui aspire bien sûr à gagner son propre argent, sa propre indépendance. Et l'orpaillage en est le gage, la seule solution qui s'offre à lui. En faisant du travail de cet enfant orpailleur, le sujet même de son documentaire Boubacar Sangaré nous rappelle que des milliers d'autres enfants souffrent du même destin. Il faut dire que le réalisateur connaît bien cet univers puisqu'à 13 ans, Boubacar Sangaré a vendu de l'eau sur l'un de ses mêmes sites miniers. Rasmani vieillit ainsi devant la caméra de Boubacar Sangaré. L'adolescent est l'acteur d'un quotidien marqué par la monotonie dans lequel on se lève, on se prépare son riz aux haricots, on mange, on discute un peu entre amis. Et puis on descend dans la mine. Et puis ça recommence, toujours et encore, la même journée. Rythmée par l'espoir de ramener quelques grammes d'or, les jours et les nuits finissent par se ressembler. Capté de façon brute, sans artifice, Boubacar Sangaré signe un documentaire poignant, baptisé « Hors de vie », sobre et efficace, à regarder d'urgence. Et après avoir parlé cinéma, nous parlons tout de suite littérature avec un des plus grands noms de la littérature africaine, Marc-Alexandre Oho, Bambé, slameur, poète, voleur de feu. Il nous a proposé dernièrement « Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé », poète dans l'âme. On le reçoit aujourd'hui justement pour parler avec lui de poésie, une seconde nature pour Marc-Alexandre Oho, Bambé, ou plutôt Capitaine Alexandre.
C'est le rôle de la poésie dans tous les temps, c'est-à-dire celui de préserver ce que nous avons de plus beau et de plus fragile en nous, c'est-à-dire notre part belle humaine. Mmh. Je pense que seule la poésie peut préserver ça dans un monde qui est asphyxié, dans une société étouffante, dans une époque opaque. Seule la poésie nous permet de rester en lien direct avec nous-mêmes, avec ce que nous sommes, je veux dire, de manière fondamentale, de manière vitale, urgente et nécessaire. Et la poésie, oui, permet de préserver nos parts belles humaines. C'est ni les courses frénétiques dans lesquelles nous sommes tous entrés pour le pouvoir, pour l'argent, pour, enfin, parfois même pour de très très bonnes raisons, hein. Mais en tout cas, aucune de ces raisons-là ne nous connecte à nous-mêmes comme la poésie, comme l'art, comme la culture de manière générale. Et pour moi, effectivement, je vais parler de poésie puisque c'est la poésie qui habite mon souffle. Et donc oui, je pense que le rôle de la poésie, à défaut de sauver le monde, elle est de sauver l'humanité, notre humanité en fait, dans le sens de ce que nous avons de plus précieux, de plus fragile et de plus beau en nous. La poésie permet de sauver ça. Et puis surtout, elle nous permet aussi de réaliser à quel point nous sommes les mêmes, quelles que soient nos couleurs de peau, quelles que soient nos différences, alors que qu'elles soient de différences de classe sociale ou de religion, de nationalité, la poésie nous permet, nous rappelle à nous-mêmes, nous rappelle à l'ordre de nous-mêmes et nous rappelle que nous sommes les mêmes en fait, du nord au sud, nous sommes exactement les mêmes, des êtres humains en quête de... Alors chacun peut compléter la phrase, mais je crois que les poètes nous rappellent ça. Moi, j'ai eu de très, très beaux cadeaux quand je suis allé pour la première fois au Liban et que j'ai découvert la poésie, une poésie que je ne connaissais pas. Mm-hmm. Et en lisant une poétesse qui s'appelle Nadia Tueni, qui est libanaise, j'ai eu l'impression qu'elle parlait de Douala, ma ville natale, et qu'elle parlait d'habitants de Douala. Et ça m'a permis de réaliser quelque chose que je sais depuis toujours, parce que je lis beaucoup de poésie et que j'ai le bonheur de voyager un peu et de rencontrer beaucoup de gens aux quatre coins du monde. Mais ça m'a tellement touché, j'avais l'impression qu'elle parlait de Douala alors qu'elle parlait de Beyrouth. Et voilà, je me suis dit que ça faisait du bien aussi de ressentir ça, cette humanité une et indivisible en fait, quel que soit le continent sur lequel on vit. Et c'était une poétesse qui m'envoyait ça au visage. Et la poésie, oui, permet ça aussi. Et elle nous permet, oui, de nous reconnecter à ce que nous avons de plus précieux, nous, à mon sens en tout cas. Et est-ce qu'on peut prétendre être poète aujourd'hui? Je ne sais pas si on peut prétendre être poète. Ce que je sais, c'est qu'on peut mener une quête poétique. On peut se chercher en poésie et puis laisser aux autres le soin de nous trouver des qualités ou des défauts d'ailleurs de poète. Mais oui, il y a encore des poètes. Moi, j'ai la chance d'en rencontrer beaucoup. J'ai la chance de partager des scènes avec beaucoup de poètes, parfois même de poètes qui s'ignorent, de gens qui sont dans ce que j'appelle, moi, le geste poétique, celui de la vie quotidienne, c'est-à-dire le sourire offert, la main tendue. Pour moi, c'est de la poésie. La poésie, elle n'est pas seulement dans les mots qu'on écrit ou dans l'esthétique qu'on essaye d'avoir quand on accouche d'un texte. Elle est dans la relation aussi, dans la façon de vivre avec les autres. Et en ce sens-là, oui, on a besoin de poètes. Et il y en a encore beaucoup, heureusement d'ailleurs, et j'en ai rencontré aux quatre coins du monde qui étaient dans ce geste poétique, c'est-à-dire d'humanité partagée, sans même écrire une seule ligne. Et puis après, il y a aussi tous les poètes que j'ai rencontrés, c'est-à-dire les stylistes, ceux qui écrivent, ceux qui disent, et qui touche le cœur des hommes, en fait. Et je pense qu'on a besoin de poésie, ne serait-ce que parce que l'époque est suffocante et asphyxiante, et qu'à côté des bombes qui explosent, on a besoin aussi de mots qui explosent et qui font sens et nous rappellent à nous-mêmes, en fait.
Ce que j'ai à dire, je pense qu'on est à une époque où on a encore plus besoin de poètes que jamais. Et ma dernière question, ça serait, comment définissez-vous, vous pourriez définir donc votre poésie en quelques mots, parce que je sais que vous êtes musicien, que vous êtes slammer, que vous êtes poète, donc vous faites un peu tout ça en même temps.
Oui. Comment je pourrais définir ma poésie ? Je pourrais un point levé et une main tendue. Enfin, voilà. Et ma poésie, c'est ça, c'est un point levé et une main tendue. Le point levé pour la résistance dont on parlait tout à l'heure. Mm-hmm. La main tendue pour la relation dont j'ai parlé aussi, dans la relation aux autres. L'ouverture au monde. Et le point levé pour la révolte et la résistance, donc je viens de le dire, et peut-être aussi une forme de dans la forme cette fois, le fond dans la forme, une forme de d'explosion et de mélange absolu de tout ce qui me fonde, c'est-à-dire la musique, c'est-à-dire la peinture, le cinéma, enfin voilà, je suis assez touche à tout et ma poésie reflète aussi finalement cette habitude que j'ai depuis longtemps à aller me perdre dans d'autres univers, aller me chercher dans d'autres univers et aller me trouver dans d'autres univers. Donc voilà, j'aime bien que tout ça soit effervescent et permette effectivement d'aller toujours le plus loin possible, en fait, de repousser les limites du possible, pour ne pas dire le chanter, de chanter les possibles. Et ma poésie, voilà, si je devais la définir, je vous dirais ça, un point levé, une main tendue et un chant d'humanité.
Bien, nous, on vous tend volontairement la main, en tout cas, merci beaucoup. Nous, et d'ailleurs, je suis tombée amoureuse d'un de vos poèmes, j'appelle Poésie, et on va l'écouter là tout de suite, à l'instant. Merci mille fois d'avoir été avec nous, vraiment, ça a été un honneur que de vous recevoir.
Merci à vous, et je vous dis à très bientôt, donc j'espère qu'on se reverra.
Plaisir, merci beaucoup.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir.
J'appelle Poésie. Le monde autour, le bleu d'un ciel d'été ou celui dans tes yeux, toi que j'ai rencontré dans un livre. J'appelle poésie, les bleus de mon âme ou ceux de nos peuples, le souffle du vent, le son du tambour, cette douceur dans la voix d'une mère aimante, aimée, amour. J'appelle poésie, cette musique, ces visions nocturnes, sensations qui courent dans les allées de la mémoire et donnent sens à nos vies. J'appelle poésie, le chant de l'oiseau réveillant l'aube, la fleur d'insomnie qui éclot, la nature qui rugit, la nuit qui tombe dans un dévorant silence, les mots passants et leur cortège d'images qui deviendront récits. J'appelle poésie, les rires des enfants martyrs dont les regards accrochent l'horizon infini et défient la violence des adultes. J'appelle poésie, tout ce qui m'inspire ou me tue, ma fureur de dire, cet air que je respire, cette bouche qui m'aspire pour le meilleur ou le pire. J'appelle poésie. La couleur pourpre de vos visages, vos yeux mi-clos.
Et après avoir parlé littérature poésie avec Marc-Alexandre Aubambé, je vous propose tout de suite de parler art. Et cap sur la ville de Dakar, au Sénégal, à l'Institut culturel italien de Dakar, où vous pouvez admirer jusqu'au 14 juillet une exposition appelée Demdik Via Vaille. Et à travers cette exposition, eh bien, on assiste à la résurrection du marché de Sandaga, lieu de vie emblématique de la capitale sénégalaise dont le bâtiment a été détruit en 2020. Et il faut dire qu'au Sénégal, et malgré le report de la 15e biennale de l'art africain contemporain, cela n'a pas empêché de nombreuses expositions de voir le jour, et notamment cette exposition collective baptisée Demdik Via Vaille, pour va-et-vient en français, qui rend hommage au marché Sandaga. Alors, entre les œuvres et les sons du marché qui accompagnent les visiteurs pour une expérience sensorielle inédite, on retrouve Djibril Dramé, artiste visuel qui expose et qui dit « Je me suis vite rendu compte que Sandaga était très proche de moi parce que ma mère, en réalité, a travaillé dans ce petit coin qu'on appelle Orojo Disquette, où les jeunes dames et les jeunes filles vont pour acheter tout ce qu'il faut pour se faire belle, et avec son argent, elles nous ont nourris à la maison. » Et pour le commissaire Mohamed Amin Sissé, la diversité des œuvres fait la richesse justement de l'exposition, Et il dit « Et c'est pour ça que je parle de complémentarité quand on la regarde dans son ensemble, en additionnant les éléments. En tout cas, pour le Dakarois que je suis, j'espère, pour ceux qui visiteront l'exposition, qu'on reconnaît le marché sans Dakar. » Donc, une exposition à visiter jusqu'au 14 juillet 2024 si vous êtes de passage du côté de Dakar. Et c'est sur cette très belle initiative que se clôture l'Afrique en culture. Merci d'avoir été avec nous et on poursuit en musique avec Rema, Calm Down, un de nos coups de cœur qui dure dans le temps. Et n'oubliez pas que l'Afrique en culture, c'est toujours à retrouver en avant-première sur Média Podcast.
Calm down, yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown.